L'audioblog du passé composé. Aujourd'hui, la traversée de l'Afrique d'Est en Ouest en 1895 et 1896 sur les pas du baron Georges de Romans. C'est l'histoire d'un carnet et d'un fusil. C'est le fusil que l'on montre en général aux invités de confiance. Il occupe une place d'honneur, accroché au mur du vestibule du château du Bois de Saint-Louis à Izernay, une petite commune du sud du Maine-et-Loire. C'est un fusil de chasse, de la chasse au gros, et il n'est pas neuf, loin de là. C'était le fusil de l'oncle Georges en Afrique, avait précisé le baron Philippe de Romans en empoignant l'arme. À cette évocation, le visage s'était animé. Manifestement, l'oncle Georges a laissé des souvenirs vivaces dans la famille. Pourtant, apprend-on vite, il est mort en 1906, à peine âgé de 40 ans. Mais dans cette lignée de gentilshommes dont les origines ramènent aux croisades, il fait à coup sûr figure d'original. L'oncle Georges a traversé l'Afrique d'est en ouest, 4000 km à pied et 2000 km en pirogue. L'exploit est consigné dans la mémoire familiale. Georges de Romans est bien parti sur les traces de Stanley Livingstone et c'était en 1895. Mais seules les grandes lignes du périple sont connues de son arrière-petit-neveu, tout comme de ses sœurs, les baronnes de Romans. L'expédition, on le sait, a été mouvementée. Il y a eu des combats en chemin. L'un des explorateurs a même été tué par les Maasai. Il reste aussi quelques papiers, même de vieilles photos. L'oncle Georges est une sorte de héros, une image d'Épinal devenue un peu floue. Lorsque les questions se font plus précises, il devient clair que le destin du baron aventurier s'est évanoui sans trop de traces. Mais justement, il y a le carnet. C'est un petit carnet de toile marron de 10 cm sur 5. À l'intérieur, 150 pages noircies d'une petite écriture quelquefois à peine lisible, ou crayon de bois. C'est le carnet de brousse de l'oncle Georges, son journal de bord, commencé le 12 mai 1895 et terminé le 26 juillet 1896. Un simple coup d'œil montre que Georges de Romans y a noté tous les détails de son expédition, une extraordinaire mine d'informations. Après quelques recherches, la famille réunit encore une vingtaine de photos, très jaunies, mais suffisamment nettes. Apparaissent les tantes, les porteurs et trois hommes très jeunes, ils ont moins de 30 ans à coup sûr. Ce sont les trois explorateurs que le carnet permet de nommer, Maurice Versepuis, le chef de l'expédition, Georges de Romans, son second, et Maurice Porque. Il y a aussi deux documents précieux. Le premier est un manuscrit de grand format, rempli d'une écriture calligraphiée. C'est le texte, rédigé de sa main, de la conférence que Georges de Romans prononça devant la Société royale belge de géographie le 24 mai 1897. Il y a aussi cette carte armoriée du grand maréchal de la cour de Belgique du 21 mai 1897 également, informant le baron de Romans que Sa Majesté le roi des Belges le recevra au palais de Bruxelles le 22 mai. Et puis enfin un second carnet, un carnet noir cette fois plus petit, toujours dans la main de Georges de Romans, toujours aussi difficile à déchiffrer. C'est encore un journal de voyage. Il couvre cette fois toute l'année 1893. Il faut du temps pour identifier le cadre du trajet suivi. Mais tout s'éclaire rapidement. Georges, qui a alors à peine 27 ans, chemine à dos d'âne sur les pistes mexicaines. Mais si le carnet était connu de la famille, ce premier voyage, mais était-ce le premier, au Mexique, restait inconnu. Le carnet noir n'avait pas livré ses secrets. Les archives familiales n'ont rien d'autre à dire sur le grand voyageur. On évoque un séjour en Algérie, sans certitude, si ce n'est la rumeur, d'un enfant illégitime, mais dont personne n'a jamais rien su. Une lecture minutieuse de la presse locale de l'époque n'apporte aucune autre information, mis à part une laconique annonce de décès. Georges Charles Marie Hippolyte, baron de Romans, est décédé à Cholet le 30 août 1906. Jeudi matin vers 4 heures, le baron de Romans, propriétaire à Cayenne, commune de Chanteloup, qui occupait depuis quelques jours son pied-à-terre de Cholet aux 17 places Travaux, se trouva indisposé. Il est alors sorti sur son balcon et c'est là qu'il fut frappé par l'attaque de congestion cérébrale qui l'a foudroyé. Il a été enterré au cimetière de Chanteloup le samedi 1er septembre à 9 heures. Entre 1896, année de son retour d'Afrique, et sa mort 10 ans plus tard, à 40 ans, Georges de Romans a vécu entre Cholet et la petite commune de Chanteloup-les-Bois. Cette décennie semble s'être évanouie jusque dans les souvenirs familiaux. Sur les deux carnets, l'écriture aussi progressivement s'efface, comme jaunisse, et s'étiolent les derniers clichés. Bientôt, il ne restera plus ainsi de l'oncle Georges que quelques encoches sur un vieux fusil. Mais les grands hommes peuvent toujours renaître, car celui qui recevait le roi des Belges et que la Société française de géographie avait couronné n'avait pas accompli un exploit banal. Cette traversée de 1895-1896 n'est pas oubliée par tout le monde. Quelques jours de recherche à la Bibliothèque nationale permettent ainsi de retrouver une seconde pièce à conviction, le carnet de bord de Maurice Porck sur la même expédition. Le puzzle se complète. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, l'hospice Condé témoigne de la puissance de l'illustre famille Versepuis dans sa ville de Chantilly. Son adresse d'aujourd'hui, place Maurice Versepuis. À la mairie de Chantilly, on renseigne les curieux sur l'une des gloires de la famille, mort en 1896, quelques jours après son retour du Congo, des fièvres contractées pendant la traversée du continent. Le 12 mai 1895, les trois hommes embarquent à Marseille. Cinq jours plus tard, c'est l'étape de Port Saïd en Égypte. Avant de poursuivre le périple à travers le canal de Suez, la mer Rouge et l'océan Indien, pour débarquer le 31 mai sur l'île de Zanzibar, actuellement en Tanzanie, après avoir essuyé une violente tempête. Si trois semaines ont été nécessaires pour être à pied d'œuvre, les membres de l'expédition ne sont pas au bout de leurs préparatifs pour organiser le départ de la caravane qui doit partir de Mombasa, un port situé à l'extrême sud du Kenya, après une ultime et courte traversée. Malgré l'expérience du chef d'expédition, il était en définitive impossible de savoir ni quand ni précisément d'où partir, tant les difficultés abondaient. Le matériel à réunir, le recrutement des porteurs, la location du bateau vont ainsi occuper plusieurs semaines à Zanzibar. Un mois après l'arrivée, la caravane devient réalité grâce à l'aide des consuls anglais et français. 120 porteurs et 20 soldats, qu'on appelle des askaris, sont maintenant recrutés et l'itinéraire approximatif du voyage s'est précisé. Georges de Romans écrit à sa mère le 18 juin. « Nous allons dans des contrées presque inconnues, une entre autres, le Kenya, où les Européens n'ont pas encore porté leurs pas. Aussi, nous ne savons pas à l'époque de notre retour, au plus tôt dans un an, au plus tard dans deux. Faites venir de Londres, par Luchise et Dolbeau, la dernière carte de l'Ouest africain, et vous pourrez suivre nos efforts à travers ces contrées inexplorées. Si, comme nous l'espérons, nous parvenons jusqu'au Kenya, nous tâcherons probablement de traverser l'Afrique entière et de revenir par le Congo. Nous partons du territoire allemand. Après 15 jours de marche, nous arriverons au Kilimandjaro, 6000 mètres. Du Kilimandjaro au Kenya, 2 mois de marche. Du Kenya à James, le lac Rodolphe, le lac Nyanza, Mongo, le pays de Ouganda, retour au Kilimandjaro par la côte ouest du Nyanza. C'est de là que nous verrons quelle sera la voie du retour. C'est une exploration complète de ce pays. Le consul de France nous pousse à le faire et les pairs aussi, car malgré les dangers et les énormes fatigues, cela est possible et nous fait ranger parmi les grands explorateurs. Pour vous donner une idée de l'importance de notre caravane, je vous enverrai le traité qui va être signé au consulat de France. Il y aura à payer, vous verrez les proportions, mais seulement à notre retour en France et Dieu sait quand. C'est probablement la dernière lettre que vous recevrez de moi d'ici à très longtemps, car il faudra le passage de la caravane près d'une mission pour écrire et de la attendre peut-être quelques mois avant d'être envoyé par un boy à la côte pour les courriers postaux. Ce que nous allons tenter est une lourde tâche, mais j'espère cependant sur la réussite si les maladies et surtout les tribus de ces pays ne se mettent pas contre nous. Lorsque la Boutre quitte le port de Zanzibar le 6 juillet, Lucien Labosse, le consul de France, adresse un dernier salut aux conquérants qui s'éloignent et qui mettent pied le lendemain sur le continent africain au beau moment de la saison sèche. Aussitôt débarqué à Mombasa, l'expédition se met en route en marche rapide, direction le Kilimandjaro. 143 hommes s'ébranlent en file indienne, transportant leurs charges qui tiennent dans une soixantaine de caisses. Tout a été, en principe, prévu pour faire face à un maximum de contraintes. 20 fusils et leurs munitions, des tonneaux, des tentes, des malles, la cantine cuisine, des chaises de toile, les artifices, une pharmacie, des lits de campagne, des hamacs, une machine électrique, des cordages, que sais-je. Le 20 juillet, Georges écrit une longue lettre à sa mère, dont bien des extraits méritent d'être lus. Je vous envoie ces quelques lignes de la mission de Boura, où nous sommes arrivés hier au soir après bien des fatigues et des privations. Nous étions depuis 5 jours sans pain et manquant des conserves, ce qui ne nous donnait pas beaucoup de force pour abattre des kilomètres à pied. Nos soldats sont habillés en couleur moutarde, vêtements de toile, grosses batteries de cuir jaune, culottes rouges, couvertures rouges roulées autour du corps, fusils Remington baïonnettes et une gourde. La présence des askaris est bien nécessaire pour surveiller et maintenir la discipline parmi les 120 porteurs. Georges écrit à ce sujet « Nous faisons distribuer 30 coups de bâton à un porteur qui a menacé le chef de la caravane de son couteau et 10 coups à un autre qui a voulu se sauver pour ne pas porter sa charge. Deux jours après, il faut enchaîner deux hommes après 30 coups de bâton à l'un qui avait voulu se sauver et 10 coups à un autre qui avait volé un camarade. » Tout au long de l'expédition, le problème central reste bien de nourrir les 140 hommes de cette imposante caravane. Les trois explorateurs sont les principaux pourvoyeurs de gibier et quasiment tous les jours chassent des heures durant. Pour appréhender le tableau des massacres nécessaires aux gardes-manger et qui sont décrits en détail dans les carnets de Georges de Roman et de Maurice Porc, il faut se débarrasser de toutes nos œillères et replacer ces récits dans le contexte de l'époque et de l'ardente obligation de manger à sa faim pour autant d'hommes épuisés par l'épreuve. Les antilopes, gazelles, zèbres, hippopotames, girafes, rhinocéros et même éléphants en font les frais. Et leur viande, précise Georges, est dévorée avec bonheur. L'expédition atteint le Kilimandjaro, splendide massif aux neiges éternelles, géant d'une hauteur de 6000 mètres, dont ils gravissent les flancs. Le périple comporte quelques havres des postes militaires allemands ou anglais et des missions religieuses où les explorateurs sont toujours extrêmement bien accueillis. Ils traversent d'immenses plaines, entièrement dépourvues de végétation. La soif les tient, le bois leur fait défaut, et ils ont beaucoup de mal à trouver un combustible pour faire cuire leurs aliments. Au commencement de novembre, ils arrivent au pays des Kikuyu, au Kenya. Peut-être avez-vous entendu parler de ce peuple dans le film « Out of Africa » avec Robert Redford et Meryl Streep. Ils décident d'y séjourner quelque temps dans un fort anglais pour se rétablir et laisser reposer la caravane déjà réduite à 90 hommes du fait de nombreuses désertions. À ce moment, le pays était en pleine insurrection. Les Maasai, race nomade et belliqueuse, étaient en guerre, ce qui est très fréquent puisqu'ils ne vivent que de pillage et terrorisent les autres tribus. Très braves, ne craignant aucun danger, ils sont gouvernés par un grand chef, sorte de sorcier, remplissant l'office de médecin. Grands, bien bâtis, nus pour la plupart, ils s'enduisent la figure et les épaules de graisse mélangée de terre rouge, portent les cheveux longs, sont armés de lances et de boucliers, ont des coiffures de guerre, les unes faites de plumes d'autruche qui leur entourent la tête, d'autres ayant la forme d'un bonnet et confectionnées avec de la peau de lion. C'est à ce moment qu'ils attaquent une caravane anglaise composée de 1200 porteurs. Ils en massacrent 700. Dyke, un Écossais que nos trois explorateurs avaient rencontré peu de temps avant, leur fait parvenir un courrier en urgence, écrit le soir après le désastre. Il réclame leur secours et prie tous les Européens présents de l'assister dans ce danger pressant. Georges de Roman, Versepuis et Spork partent aussitôt. Arrivés à la vallée de Kedong, guidés par une nuée de vautours, ils découvrent le lieu du massacre. Georges en fait le récit. Un spectacle affreux s'offre à nos yeux. Une grande quantité de cadavres gisent à terre, des gens en partie décomposés et dévorés par les animaux. À une faible distance, nous voyons le kraal, où se sont réfugiés les Maasai, qui poussent sur nous leurs bestiaux, tactiques de guerre, qui nous suggèrent l'idée d'enlever ces animaux. Cependant, faisant un détour, ils essaient de rattraper leurs troupeaux en nous coupant la route. Ils poussent leurs cris de guerre, se précipitent sur nous avec une étonnante rapidité et nous attaquent avec une grande bravoure. Grâce à la précision de notre tir et de nos armes à répétition, nous arrêtons leur élan sur la droite. L'action est chaude. À ce moment, M. Dai, qui se trouve à quelques pas de moi, a le corps percé d'une lance. Le coup est mortel. Et bien que la première attaque soit repoussée, les Maasai continuent toujours à arriver. Nous voyons leur masse noire s'avancer au loin dans la vallée. Un instant peut tout perdre. Nous disons un dernier adieu à celui qui n'est plus et nous gravissons au plus vite un col pour nous mettre à l'abri d'une nouvelle attaque. Enfin, épuisés par une marche des plus pénibles, nous ramenons au fort anglais tous les bestiaux capturés, au nombre de 400 environ. Bien que tout le pays soit en révolte, nos explorateurs repartent, prêts à repousser toute attaque nouvelle. Ils rencontrent à nouveau des Maasai, qui cette fois viennent leur offrir la paix. Ils peuvent donc continuer leur route sur l'Ouganda. Le 25 décembre, ils atteignent le poste anglais placé au pied d'une grande chaîne de montagnes, formant le partage des eaux entre l'océan Indien et le lac Victoria. Ils y ravitaillent la caravane et le lendemain franchissent le profond ravin de la rivière Eldoma pour gagner les contreforts du Mao, qui doivent les conduire dans le pays des Wanandi. En traversant cette chaîne de montagnes, tous souffrent beaucoup du froid. À nouveau, beaucoup de porteurs désertent. Une fois parvenus au pays des Wanandi, ils sont forcés de construire des enceintes fortifiées autour du camp pour se prémunir contre les attaques des indigènes qui se sont soulevés. Lorsqu'ils réussissent à partir, ils traversent une quantité de petits villages très peuplés, curieux par la façon dont ils sont fortifiés. Chaque village est entouré d'un muret et d'un fossé extérieur. Les indigènes se craignent de village à village, car ils ne sont sous aucune domination, n'ont aucun chef et se font souvent la guerre entre eux. L'expédition parvient enfin au lac Victoria. C'est le plus grand lac d'Afrique avec une superficie de 68 100 km². Il est bordé par le Kenya au nord-est, l'Ouganda au nord et au nord-ouest, et la Tanzanie au sud, sud-ouest et sud-est. C'est aussi la source du Nil blanc, le plus long affluent du Nil. La région est très riche, très fertile en cultures de bananiers, aussi très peuplée. Dans les villages, la construction des cases est extrêmement soignée. Celle du chef est toujours de forme européenne, carrée. Chacune d'elles est entourée d'une palissade construite avec de hautes herbes séchées s'entrelaçant, puis d'une seconde enceinte beaucoup plus élevée, atteignant souvent 5 à 6 mètres de hauteur, et fermée le soir par une porte afin d'empêcher les animaux féroces d'y pénétrer. Les habitants sont craintifs, fuient les Européens, se couvrent d'une étoffe qu'ils fabriquent avec une écorce d'arbre. La caravane atteint le Nil, et tous admirent les chutes de Raipon, larges de 800 mètres et hautes de 10. C'est le déversoir du lac Victoria qui donne ses eaux au Nil blanc à 1200 mètres d'altitude. Après avoir traversé en pirogue la baie Napoléon, ils parviennent en Ouganda. Initiés par les Arabes qui parcouraient autrefois leur pays, les indigènes y sont plus évolués que ceux jusque-là rencontrés. Ils font des routes de 10 à 15 mètres de large, établissent des ponts sur les marais et se servent de koris, des coquillages, qui leur tiennent lieu de monnaie. Ils s'habillent de linge blanc, provenant de matières d'échange, ou d'étoffes jaunes, faites d'écorces d'arbres. Leur roi, Mwanga, possède une grande autorité sur ces sujets. Il cherche à imiter les Européens dans leur manière de vivre. Il nomme ses ministres, sous la surveillance des Anglais. Ceux-ci, au nombre d'une demi-douzaine, habitent près de lui. Il tient sa cour à Mengo, où l'expédition arrive vers la fin de janvier 1896. Nos trois explorateurs sont reçus par les missionnaires français des Pères Blancs d'Alger. Ils vont s'y reposer un mois, très éprouvés par les fatigues des 44 jours de marche depuis Kikuyu. Il faut reformer la caravane qui, à un moment, s'était soulevée contre eux et refusait de poursuivre. Sachant que le but de l'expédition était le Congo, les porteurs étaient persuadés qu'ils allaient être pris en esclavage ou dévorés par les habitants de ce pays. La tension était extrême, une véritable insurrection se préparait. Pour y mettre bon ordre, il s'avéra nécessaire de mettre au fer au poste anglais les deux chefs de la caravane, promoteurs de la révolte. Le 22 février, Georges de Roman et Maurice Versepuis quittent la capitale de l'Ouganda pour éviter les désertions qui augmentent chaque jour. Maurice Porc part de son côté pour essayer de trouver la trace de leurs provisions qui se sont évaporées, mettant en péril l'expédition. Le pays, toujours vallonné, rend la marche longue et difficile. Les marais sont nombreux, profonds, et les hommes sont parfois forcés d'y séjourner plus de 3 heures, dévorés par les moustiques, dans des eaux bourbeuses, souvent glaciales. Continuant leur marche à petite journée, ils parviennent au lac Rouérou, à la frontière de l'Ouganda et du Congo. C'est à ce moment que Georges de Roman tombe malade, pris de malaria, ce qui les oblige à stationner quelque temps dans les parages malsains afin qu'ils puissent se soigner. Pendant ce temps, Maurice Versepuis se livre à la chasse à l'éléphant et en abat plusieurs. Le 11 avril, ils sont enfin rejoints par Maurice Porc, après 2 mois d'absence. Il a réussi à retrouver à Port Victoria leur cantine pleine de provisions, le courrier d'Europe et les journaux, qui leur font le plus grand plaisir car depuis 5 mois, ils n'avaient reçu aucune nouvelle de France. Dès le lendemain, ils partent pendant un orage violent pour Katwe, point extrême au nord-ouest du lac Albert-Édouard, qui forme la limite entre le territoire anglais et le Congo indépendant. Un peu remis de ses fièvres, Georges suit la caravane portée en hamac. Il constate alors que le lac Rouérou, formant un vaste marais, ne communique pas avec le lac Albert-Édouard par une vaste baie, comme l'indiquait Stanley, mais bien par un petit cours d'eau sans importance. Étonnés de cette erreur, ils prennent des renseignements auprès des indigènes, qui affirment n'avoir jamais connu d'autre communication entre les deux lacs que cette petite rivière. Une distance de 40 km les sépare, et il y a entre eux une différence d'altitude de 200 mètres, ce que n'avait pas non plus constaté le célèbre Stanley. La mission parvient à Katwe, pays malsain, où l'on ne peut vivre sans attraper des fièvres. Un petit lac salé y attire les indigènes, très friands de sel. Ils viennent le chercher de loin, mais ils paient un fort tribut, car la plupart y contractent le paludisme. Les Anglais aussi ont voulu occuper ce point, mais des miasmes terribles les en ont chassés. Et aujourd'hui, une dizaine de Nubiens seulement gardent ce petit poste. Une nuit, du camp, ils aperçoivent une lueur pourpre très loin, au sud du lac Aber-Edouard. En même temps, leur parvient le bruit de fortes détonations. C'est le volcan Fombiro qui entre en éruption. Au nord de l'Albert-Édouard se dresse la masse imposante du Ruwenzori, dont les immenses glaciers, se reflétant dans les eaux du lac, leur offrent un spectacle d'une majesté indescriptible. Continuant à se diriger vers l'ouest, les explorateurs entrent dans le Congo indépendant par la vallée de la Semliki, qui est un affluent du Nil Blanc. Les indigènes, chassés des régions du lac Albert par le sultan Kambariga, y habitent depuis peu. La présence de la caravane leur est signalée par des sentinelles. Craignant d'être attaqués, ils se mettent sur la défensive et envoient dans la montagne leurs femmes et leurs enfants. Dans les villages, les hommes forment de petits groupes armés. Mais, voyant l'attitude pacifique de la mission, leurs craintes se dissipent aussitôt. Après la traversée de la rivière Semliki, large d'environ 200 mètres, au courant très violent, ils s'éloignent des hautes herbes impénétrables pour entrer dans la grande forêt qu'ils ne quitteront plus jusqu'à Léopoldville. Après 10 jours de marche en forêt, ils parviennent à Kwamkubi. Dans ce village, ils reconnaissent la civilisation apportée par les Arabes, qui partout où ils habitent donnent des preuves de connaissance et de confort inconnus des indigènes. Kwamkubi possède une vaste place, au centre de laquelle s'élève la baraza, sorte de terre-plein couvert, où se réunit le conseil du village composé des plus anciens. C'est là que les 3 explorateurs sont reçus à leur arrivée. Sur cette même place se trouvent de petites maisonnettes de 50 cm à 1 mètre de hauteur qui servent de refuge la nuit, d'après la légende, aux esprits errants des hommes morts dans la forêt. Ces Arabes parlent le langage de Zanzibar, le Kishwahili. Des plantations de maïs, de patates douces, de canne à sucre entourent le village. Les cultures sont protégées des éléphants par des bomas, sortes de haies composées de poteaux enchevêtrés les uns dans les autres. Et la caravane repart, quittant le poste de Kwamkubi pour pénétrer dans le bassin du Congo. La marche est très pénible à travers la forêt où il n'existe ni route ni sentier. C'est à la boussole qu'ils se dirigent, se frayant un chemin à la hache, à travers les parties broussailleuses sous de hautes futaies. Des marais profonds les forcent à faire de longs détours. Des quantités de lianes dont les indigènes tirent le caoutchouc obstruent leur passage. Ils affrontent aussi d'innombrables essaims de guêpes. Les vivres manquent, il faut rationner les hommes à 3 épis de maïs par jour. Chaque fois qu'ils établissent le camp, 2 heures de travail sont nécessaires pour abattre les arbres. La nuit, ils entendent le barrissement des éléphants. Mais ils craignent surtout la férocité des léopards, très nombreux dans cette partie de la forêt, et dont un des porteurs sera victime. La végétation arborescente de la forêt est en grande partie composée d'acajou, d'ébéniers, et d'une sorte d'arbre appelé fromager, qui est d'une très grande utilité pour les indigènes. Le fromager pousse très haut et très droit, son sommet est si touffu qu'une partie de la forêt, en est rendue très sombre. C'est avec ces arbres gigantesques, généralement creux, que les indigènes fabriquent leurs pirogues, qui atteignent quelquefois 20 mètres de longueur. Poursuivant leur route, dans des conditions toujours aussi pénibles, les explorateurs atteignent Libina, dont la largeur est de 200 mètres, avec des rapides dont le nombre et la force empêchent la navigation. Jusqu'à présent, son cours n'était que présumé, et cette découverte sera mise au crédit de l'expédition. Après une marche de 20 jours et au prix de bien des fatigues, ils parviennent au poste militaire congolais de Kilongalonga, commandé par des officiers belges. Les 3 chefs de la mission ont du mal à cacher la joie de trouver enfin des Européens. Leur progression leur permet dorénavant des haltes régulières dans des postes belges où ils reçoivent le meilleur accueil. Le poste d'Avakoubi est le plus important. Un grand village arabe se trouve en aval. C'est là qu'ils voient quelques pygmées qui venaient d'échanger leur chasse contre des bananes ou des patates. D'une hauteur d'1,20 m environ, ils sont nus, avec un nez très épaté, et vivent disséminés dans la forêt. Leur nature ombrageuse les rend difficiles à rencontrer. Ils ne construisent pas de hutte, s'installent dans des trous, armés de lances et de flèches proportionnées à leur taille, et se livrent à la chasse, attaquant même aux éléphants. La monnaie de ces contrées est un fil de cuivre, appelé mitako, lequel diminue de longueur au fur et à mesure que l'on s'approche de la côte. Le poste d'Avakoubi est un endroit malsain, occupé depuis peu. Cependant, 15 tombes y marquent déjà les sacrifices qu'il a coûtés à la Belgique. C'est là aussi que Maurice Versepuis va contracter les premiers germes de la maladie qui devait l'emporter. De grandes rizières environnent le camp et sont gardées par des indigènes, le jour contre les oiseaux et la nuit contre les éléphants. Ne voulant pas perdre de temps dans un tel lieu, les explorateurs décident d'atteindre le Congo en descendant l'Ituri et la Ouiri en pirogue quitte à en affronter les nombreux rapides. Ce voyage fluvial permet de doubler les étapes. L'effort de la journée accompli, tout se campe sur les rives de la forêt. Il faut changer les pagayeurs à chaque village. Et Georges n'est pas rassuré en remarquant qu'ils ont les incisives limées en pointe, signe distinctif d'une race d'anthropophages. L'horizon reste toujours bordé par la forêt qui recouvre les deux rives du fleuve. Georges est toutefois ému par la descente des rapides où la pirogue, lancée à toute vitesse au milieu des rochers et des tourbillons, est très habilement dirigée par les indigènes au moyen d'une longue perche. Le 30 mai, il passe les chutes de Panga, l'endroit où l'Itourie change de nom pour s'appeler Aruimi. Les villages qui bordent les rivières sont nombreux et les indigènes différents des précédents. Ils sont grands, bien musclés, ils portent tous un petit pagne teint avec du tanin. Ils s'en enduisent même le corps, ce qui leur donne une teinte rouge parfois violacée. Ils portent aux bras et aux jambes des bracelets de cuivre très épais, provenant de matières d'échange. Presque tous ont des coiffures semblables à une mitre d'évêque en herbe tressée et ornée de plumes de coq. Ils se livrent à la fabrication de l'huile de palme et font le commerce de la pêche, échangeant leurs poissons contre les produits que les habitants apportent de l'intérieur de la forêt. Georges remarque que dans ces hameaux, d'énormes gongs en bois évidé, des instruments qui rendent un son qui se perçoit très loin au moyen de coups frappés d'une façon conventionnelle. Ils jouent ainsi le rôle de télégramme acoustique. Franchissant les derniers rapides, les quatre pirogues arrivent à Yambuya, où se trouve un employé de l'État indépendant qui les informe qu'un des vapeurs réguliers du Congo devait sous peu quitter Stanley Falls. Ils repartent la nuit même afin d'atteindre à temps Bassoko, franchissant 150 km d'une traite et arrivant le lendemain matin juste à temps pour trouver le petit vapeur, la ville d'Anvers, qui doit leur faire descendre le cours du Congo. Nous sommes alors le 8 juin 1896. Cette fois, le paysage change. La forêt s'éclaircit. La vue a plus d'étendue. Des îles boisées sillonnent le fleuve. À Bumba, le fleuve Congo a 30 km de large. Les indigènes de cette région sont encore rebelles à toute civilisation. Les hommes portent un tout petit pagne autour des reins et les femmes n'ont pour tout vêtement qu'un épais collier de cuivre. À Bangala, les habitants sont principalement remarquables par les incisions qu'ils se font sur le front. Avec un instrument tranchant, ils arrivent à se former une excroissance considérable, persuadés qu'elle est un ornement pour leur visage. Non contents de cet embellissement facial, ils portent sur le corps des tatouages en relief. Maurice Versepuis est alors de plus en plus malade, atteint de dysenterie. Georges n'est pas rétabli. Il faut se reposer et se soigner au poste d'Irébou. Maurice Porc doit continuer seul avec la caravane sur Léopoldville. Pendant le séjour à Irébou, le poste est attaqué par des indigènes du lac Matumba, qui ne lâchent pied qu'après une heure de combat, grâce au bon armement des troupes indigènes du Congo indépendant. Georges et Maurice Versepuis rejoignent Spork 8 jours plus tard, le 7 juillet à Léopoldville. Ils sont aussitôt reçus par le gouverneur du Congo, qui leur donne toutes les facilités pour continuer par petites étapes la route des caravanes. Mais l'état de santé de Maurice se dégrade et inspire de vives inquiétudes. L'avis des médecins est de regagner la côte au plus vite. Pendant 10 longs jours, il transporte le chef de l'expédition au hamac par la route des caravanes jusqu'à Tumba, le point où s'arrête l'exploitation du chemin de fer du Congo. Le major Theis, de passage à cet endroit, se met à leur entière disposition, leur offrant un train qui les conduisit à Matadi. Le lendemain, un vapeur transporte Maurice Versepuis et Georges de Roman à Cabinda, aujourd'hui une enclave angolaise coincée entre les deux Congos, celui de Brazzaville et celui de Kinshasa. Le 3 août, tous deux embarquent pour l'Europe, laissant à Spork le soin de rapatrier la caravane et de régler les affaires de la mission. Le 27 août, Georges et Maurice débarquent à Lisbonne, où Arnold Versepuis vient chercher son frère. Maurice, après avoir supporté avec un courage héroïque les fatigues de la traversée, touche enfin au but de son voyage, qui devait être aussi celui d'une vie consacrée de bonheur à la science et à son pays. Il n'aura pourtant que le temps d'arriver chez lui à Chantilly, où il décède le 4 septembre, à l'âge de 28 ans. Ainsi, s'achevait un périple de 4000 km, effectué en partie à pied, à travers plaines, forêts et marais, auxquels s'ajoutent 2000 km en pirogue pour la descente des fleuves de l'Aruimi et du Congo, et dont les résultats, géographiques et scientifiques, impressionneront les sociétés savantes qui auditionneront Georges de Roman.